France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Le 1er novembre 1775, je distribuais les exemplaires du paysan au libraire qui devait les vendre, sans me douter du succès d'une production que le libraire de Lalin avait dédaignée. Cet ouvrage va mettre du changement dans mon sort. Jusqu'à sa publication, j'étais demeuré inconnu du public. Le paysan me fit une réputation d'auteur.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Leur éclat est impérieux. La gloire des grands écrivains qui concentrent le souvenir des Lumières tend à rejeter dans l'ombre la petite foule qui constitue en France, au XVIIIe siècle, une république des lettres aux dimensions bien plus larges. Des centaines d'écrivains y circulent et s'y ébattent. Leur situation sociale se distribue depuis une prospérité mondaine jusqu'à une profonde misère, entre lesquels se dessinent des itinéraires aux multiples couleurs. Nous allons en parler avec Robert Danton. Il est venu souvent à ce micro, pour notre bonheur. Mais la conjoncture qui est la nôtre rend particulièrement précieux ces temps-ci l'accueil d'un grand universitaire américain. Professeur émérite à Princeton, il a dirigé la splendide bibliothèque de Harvard et il y a lutté avec efficacité contre la mainmise de Google sur ses collections. Son œuvre a profondément marqué l'historiographie de la vie intellectuelle de la France au XVIIIe siècle, en lien étroit avec les puissantes mutations de la société qui ont conduit à notre grande révolution. Le titre de son nouveau livre, « La condition d'écrivain », dit exactement ce qu'est son propos. Il restitue les modes de vie, les pratiques éditoriales, les heurts et les malheurs de ces milliers de gens de plume qui ont animé alors en profondeur la vie des idées et les sensibilités. Leur force et leur influence échappent généralement à nos manuels de littérature. Mais elles sont éclairées par une quantité de sources, manuscrites et imprimées, où Robert Danton, qui en connaît tous les détours, est allé quérir les éléments d'un tableau en vérité saisissant. Puisque tous ces gens de lettres ne peuvent vivre que très rarement de leurs plumes, il explore les relations de l'argent avec la vie intellectuelle. Il nous conduit dans les mansardes et dans les salons, non sans divers passages, par les cachots de la Bastille. Et cette exploration appelle la curiosité. Et pour commencer, pour entrer tout droit dans l'ambiance du temps, je vous propose une lettre du père de Denis Diderot à son fils emprisonné. On est en septembre 1749.
À Langres, ce 3 septembre 1749. Mon fils, j'ai reçu les deux lettres que vous m'avez écrites en dernier lieu, qui m'apprennent votre détention, et le motif dit celle. Jusque-là, je vous ai regardé pour mon enfant. Et si je vous ai donné de justes preuves de ma tendresse en vous faisant donner de l'éducation, c'était dans l'espérance que vous en feriez un bon usage. Et que, loin que ces suites eussent dû me jeter, comme elles l'ont fait, dans le trouble et dans le chagrin, le plus cuisant en apprenant votre disgrâce, je m'attendais au contraire qu'elle ne servirait qu'à me savoir bon gré de n'avoir rien épargné pour vous la procurer. Vous me demandez de l'argent. Quoi ? Un homme comme vous, qui travaillez à des ouvrages immenses, comme vous faites, peut-il en avoir besoin ? Voilà 28 jours écoulés dans un endroit où il ne vous en a rien coûté. D'ailleurs, je sais que Sa Majesté, par un effet de sa bonté, fait donner une subsistance honorable à ceux qui, en exécution de ses ordres, sont traduits là où vous êtes. Vous m'avez mandé avoir du papier, de l'encre et des plumes. Je vous invite à en faire un meilleur usage que du passé. Et rappelez-vous le souvenir que votre pauvre mère, dans les remontrances qu'elle vous a faites d'une vive voix, vous a dit plusieurs fois que vous étiez un aveugle. Donnez-moi des preuves du contraire. Encore une fois, surtout, soyez fidèle dans l'exécution de vos promesses, dans l'endroit où vous êtes, comme partout ailleurs. Vous trouverez 6 juin un billet pour toucher 150 livres auprès de Monsieur Foucault, que vous ménagerez comme vous le jugerez à propos. J'attends impatiemment ce jour fortuné qui doit calmer toutes nos inquiétudes en apprenant que l'entière liberté vous est rendue. En attendant, je suis, mon fils, avec toute la tendresse que je vous dois, votre affectionné père Diderot.
Robert Danton, bonjour.
Bonjour.
Il s'agissait donc d'une lettre du père de Diderot, adressée à son fils emprisonné, que j'ai empruntée au chemin de la connaissance de Jacques Munier sur France Culture, le 13 octobre 2000, une lettre du 3 septembre 1749. J'ai jugé que je vous emmenais ainsi d'emblée au cœur de cette période que vous connaissez si bien et qui vous est si chère, et de la problématique qui est la vôtre.
Eh bien, c'est une lettre émouvante. À cette époque-là, Diderot était un pauvre diable. Et le mot « pauvre diable », c'était le mot favorisé par Voltaire qui se moquait des petites gens de la littérature. Bien sûr, c'était souvent ses ennemis, Fréron et compagnie. Mais ceci dit, il existait tout un monde d'écrivaillés, de gribouilleurs.
Les plumitifs, dit Voltaire aussi.
Les plumitifs. C'était là un secteur de la littérature qu'on ignorait, mais que j'ai découvert dans les archives de la police. Je pense que ces petits écrivains avaient une certaine importance, et même j'y vois deux phénomènes. D'abord, les pauvres diables, et d'autre part, ce qu'on appelait livres philosophiques. Mais c'est un terme presque technique de l'époque. Livre philosophique, ça voulait dire une certaine philosophie extrême, d'Holbach, par exemple, mais surtout de la pornographie et des libelles politiques. Donc, il y avait cette catégorie à l'intérieur du commerce de livres, même des catalogues avec titre « livre philosophique ».
Nous nous situons par là à la rencontre d'une société et de la circulation culturelle des idées. C'est à mon sens, l'originalité profonde de vos travaux depuis quelques décennies.
Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup étudié cette petite littérature que je trouve très amusante et bien faite, mais aussi les auteurs. Donc ça se complète, je crois. Avec exception, je ne veux pas abuser de cette thèse, mais quand même, c'est une façon de repenser l'histoire littéraire, d'en faire une sorte de sociologie, si vous voulez. Mais je trouve que c'est drôle, c'est amusant, et j'ai pas mal de sympathie pour ces pauvres diables.
Donc vous n'abusez de rien, et la rencontre entre l'humour et une certaine gaieté, avec l'historiographie la plus sérieuse et la plus universitaire, ne nous messiez pas ici.
Oui. Bon, la gaieté à la française, je l'adore, hein. J'y apprends des choses. Mais il faut dire en même temps que ces pauvres diables ont beaucoup souffert. Je les ai trouvés dans les archives de la Bastille, il y avait des rapports de la police, des espions de la police, ils étaient maltraités, c'était souvent des misérables. Mais ce qui m'a intrigué, c'est que beaucoup de ces petits écrivains sont devenus de grands révolutionnaires.
Alors nous allons trouver cela tout à l'heure, un rapprochement peut-être avec aujourd'hui. De fait, comme à l'époque, très peu de Français, vivent de leurs plumes entièrement, une trentaine, dites-vous, peut-être 50. Oui. Et à l'époque, ils étaient également très très peu nombreux, puisque vous saisissez 2500, de 3000 individus qui vivent de tout autre revenu que de leur production littéraire directement,
oui,
ce type payé.
Exactement. C'était Louis-Sébastien Mercier qui a dit « Il n'y a que 30 écrivains qui vivent de leur plume ou qui écrivent à plein temps ». Et il dit qu'il y avait tout un monde littéraire, mais ce monde-là, c'était des écrivains qui vivaient pas de leur plume, mais de leur pension. C'est tout autre chose. Ce qui a dominé, c'était le clientélisme. Pour survivre dans le monde de lettres au XVIIIe siècle, il fallait avoir des pensions, des places, etc.
Des sinécures.
Exactement. Donc c'est un monde privilégié. Et ceux qui ont dominé dans la littérature, les académiciens, par exemple, recevaient tous des pensions. Ils ne vivaient pas de leurs plumes. Donc la règle du jeu était complètement différente de l'époque, disons, de Zola, qui a fait un livre sur l'argent, puisque c'est l'argent, le marché, qui a libéré, en quelque sorte, l'écrivain.
Alors, pour donner du concret, pour donner de la chair à votre démonstration si efficace, je voudrais, Robert Danton, que nous faisions ressurgir certains individus qui ne sont pas ceux qui figurent au premier plan dans les manuels de la gare des Michards, mais qui permettent de dire beaucoup de choses sur ce qu'ils ont éprouvé à l'époque, la manière dont ils ont vécu, dont ils ont réussi souvent à émerger de la misère. Il y en a quatre. Il s'agit de Marmontel, j'annonce le programme, de André Morellet. On dit Morellet, hein?
Voltaire disait Morlaix, c'est-à-dire mordre les prêtres.
Ensuite, Baculard d'Arnaud et enfin Pierre-Louis Manuel. Alors, à vous de les figurer devant nous, Robert Danton.
J'essaie de faire une sorte d'histoire sociale des écrivains.
Donc il faut des personnages, il faut dépasser la prosopographie.
Oui, mais l'important, à mon avis, c'est de connaître un peu comment faire carrière dans la littérature à cette époque-là. Si on suit de près quelques carrières, on peut entrevoir les conditions sociales et économiques de la littérature à cette époque-là. Si on prend l'exemple de Marmontel, c'était un jeune homme d'une famille modeste. Son père était tailleur en province, mais il était brillant. Et naturellement, on pensait en faire un prêtre.
On passe toujours par l'Église. À l'époque, la plupart...
Il n'y avait pas d'autre chemin.
Promotion sociale. On n'avait pas le lycée de la Troisième République.
Oui. Donc, exactement. Donc, il a fait de belles études. Et ensuite, il écrivait des poèmes à côté. Et il a essayé de gagner le prix des Jeux Floriaux à Toulouse. Mais il a envoyé un poème à Voltaire pour demander l'avis de Voltaire, qui a répondu que c'était excellent. Et toute une correspondance a suivi parce que Voltaire patronisait les jeunes gens. Il y voyait du talent et après un certain moment, Voltaire lui a promis un poste à Paris.
Ainsi se constituait une sorte de cour du roi Voltaire.
Exactement. Et on l'appelait le roi Voltaire à cette époque-là, tellement il était puissant. Il pouvait disposer de postes. Et là, il s'agissait d'un poste dans le contrôle général des finances. Mais à son arrivée à Paris, le contrôleur général a disparu. Il a été limogé, pour ainsi dire. Alors, Voltaire demande à Marmontel, « Qu'allez-vous écrire ?» « Je n'en sais rien, monsieur », a-t-il répondu. « Eh bien, commencez par une pièce de théâtre. » Et Voltaire lui a donné ses entrées.
C'est Denis le Tyran, c'est ça?
Oui, Denis le Tyran.
Denis de Syracuse.
Il lui a fallu du temps, il fallait étudier le théâtre. Mais il avait ses entrées à la Comédie française. C'est Voltaire qui s'est arrangé pour qu'il passe son temps là. Il vivait dans une mansarde, pas chauffée.
Il écrivait dans son lit pour éviter...
Il écrivait dans son lit pour garder la chaleur. Et finalement, il a écrit « Denis le Tyran », qui était un succès. Et il était, pour ainsi dire, lancé. Voltaire lui a préparé l'entrée des salons. Il connaissait tout le monde. Il faisait des écrits un peu partout. Et il a appris à se comporter d'une façon honnête et agréable aux grands du monde. Voltaire lui indique qu'il faut se faire homme du monde. Et la formule de Voltaire, c'est fascinant, n'est-ce pas? Il fallait lier les gens de lettres avec les gens du monde. Donc la littérature était mondaine. dans la vue de Voltaire. Et Marmontel a parfaitement suivi cette stratégie, ce qui lui a bien réussi. Il est vrai qu'il est passé par la Bastille aussi. Mais
c'est pas assez général chez vos héros.
Oui, mais c'était un petit séjour.
Donc il y a une espèce de jeu, enfin il y a une espèce de parcours presque typique que représente votre homme, votre Marmontel, c'est-à-dire la misère d'abord, la mansarde, jusqu'au salon en passant par la Bastille.
Exactement. Et pourquoi la Bastille? C'est qu'il avait récité par cœur un poème contre un duc, un grand. Ça ne pouvait pas se faire.
Très dangereux, très dangereux.
Il n'a pas écrit, mais il a été envoyé à la Bastille où il a reçu des gens. Il passait comme une victime de la tyrannie et c'était un grand succès. Et voilà, il a continué, il a écrit des romans et des contes moraux. Ils étaient bien vendus sur le marché littéraire, mais ils ne vivaient pas de ses revenus, de ses livres. Il vivait des pensions.
Mais ce succès, évidemment, aussitôt fait surgir contre lui des critiques, des jalousies. Écoutez donc cet épigramme à charge de Marmontel qui remonte à 1779. C'est un extrait de Vérité et Chimère, l'émission d'Emmanuel Bondeville en mai 1949.
Voici un couplet destiné à Marmontel.
Ce Marmontel si long, si lent, si lourd, qui ne parle pas mais qui beugle, juge la peinture en aveugle et la musique comme un sourd. Ce pédant à si triste mine et de ridicule bardé, dit qu'il a le secret des beaux vers de Racine, jamais secret ne fut si bien gardé.
Alors, Robert Danton, il y a un second personnage auquel vous restituez une lumière rétrospective, c'est le personnage déjà cité d'André Morlaix.
Oui, c'est un exemple très intéressant, surtout puisqu'on dispose de documents. Il a écrit 2 volumes de mémoires après la Révolution. Donc,
ils vivent très vieux, la plupart d'entre eux, sauf l'un qui est guillotiné, ils vivent vieux au personnage.
Oui, il a échappé à la guillotine, Morlaix, mais de justesse. Ce qui m'intéresse surtout, c'est sa correspondance. Si on lit sa correspondance à côté de ses mémoires, on trouve toutes les étapes d'un success story, d'une carrière à succès. Lui aussi avait beaucoup de talent, mais il est originaire d'une famille de Lyon, de 14 enfants. Il était l'aîné, son père était marchand de papier, etc. Et il est entré dans l'église pour se faire prêtre. C'était le seul
lui aussi,
chemin possible.
Lui aussi. Lui aussi comme... Souvent, petite bourgeoisie, église, c'est souvent le chemin.
Exactement. Mais chemin faisant, il lisait les livres des philosophes, etc. Il avait un oncle qui connaissait un autre Lyonnais qui dirigeait un séminaire à Paris. Donc, il est monté à Paris. Enfin, c'est toute une histoire. Mais bref, petit à petit, il a été reconnu. On l'a nommé comme directeur de conscience, pour ainsi dire, d'un jeune homme, fils d'un aristocrate, la Galésière. Et il a dirigé, pour ainsi dire, le chemin de ce jeune homme qui allait devenir évêque.
Ce qui frappe, c'est leur habileté. Ces gens-là, quand ils réussissent à flatter les grands, ça fait partie en quelque sorte de leur état. C'est constitutif de leur ambition. Écoutez ce que Morlaix écrit à Turgot, le grand Turgot, en décembre 1768. « Imaginez combien il est triste pour moi, 42 ans, de penser que je puis arriver à un âge avancé, 42 ans, bon, à un âge avancé, et n'avoir ni feu ni lieu. Il faut que mes amis, ceux qui le sont véritablement, s'occupent de me faire avoir quelques bénéfices. Pensez-y, pensez-y vous-même. » Morlaix à Turgot.
Voilà, donc ils étaient très copains à ce qu'on appelait la maison de Sorbonne. C'était une institution à l'intérieur de l'université, fréquentée surtout par de jeunes aristocrates, mais par certains boursiers, dont Morlaix. Il était très intime avec Turgot, aussi avec Loménie de Brienne, qui allait devenir premier ministre.
Mais qui allait échouer à rétablir les finances de la France.
Oui.
Il demande ?
Il demande l'appui, il demande des prébendes, il demande des sinécures, etc. C'est très clair. Tout le monde connaissait que c'était là la règle du jeu.
Troisième personnage, Baculard d'Arnaud, qui est intéressant spécialement parce qu'il a été dénommé le doyen des pauvres diables, qui a gagné pas mal d'argent, ce qui peut exister encore peut-être aujourd'hui sous le manteau en écrivant des œuvres grivoises.
Au début, oui.
L'art de foutre, 1741.
Oui, et le cul dirige par-dessus le marché. Donc il a commencé par faire de la pornographie, de faire la cour à Voltaire, qui l'appuyait. Mais finalement, il s'est brouillé avec Voltaire. Il était à Berlin, n'est-ce pas, un peu le protégé de Frédéric II. Il est revenu à Paris et il a donné dans la sensiblerie.
Il passe du grivois au sentimentalisme.
Bon, le grivois n'existait plus. Pour lui, c'était les torrents de pleurs. Il utilise souvent ce mot. Et effectivement, ce sont des romans de sentiments, les épreuves du sentiment.
Les époux malheureux ont un immense succès.
Oui, oui. Mais ça, c'était un succès de librairie. Je m'explique, n'est-ce pas? J'ai choisi trois cas que je trouve exemplaires. Morellet, le grand succès. Baculard d'Arnaud, à un autre niveau, il vivait de sa plume, mais à peine. Et finalement, Pierre Manuel, un pauvre diable dans les bas-fonds de la littérature. Donc, dans le cas de Baculard d'Arnaud, c'était d'abord un succès avec les épreuves du sentiment, mais il se répétait. Et finalement, il a écrit plus de 50 romans qui faisait pleurer bien des lecteurs, mais finalement, on avait assez, et il était misérable. Il a traversé la Révolution sans grand problème, il a survécu.
Alors, il y a votre Manuel, Pierre-Louis Manuel, oui, sur qui vous insistez spécialement et qui est représentatif.
Eh bien, Pierre Manuel est très intéressant. On le connaît mal. Il est à peine mentionné dans les histoires de la Révolution, mais c'était un personnage important, procureur de la Commune. Mais avant la Révolution, c'était vraiment un de ces Rousseau du ruisseau qui me fascine.
L'expression de Voltaire.
Oui. Et il voulait se faire philosophe. Il a écrit du traité assez philosophique qui n'ont pas réussi. Il est tombé dans la misère. Et heureusement, j'ai trouvé son cahier dans les archives de la Bastille. Et là, la police le traite de misérable, qui faisait toutes sortes de choses, mais qui collaborer avec Mirabeau. Mirabeau avait toute une équipe d'écrivains qui écrivaient ses pamphlets.
Ce qu'on appelait autrefois des nègres et désormais des plumes.
Oui, et c'était le cas. Donc Manuel était un de ces gens-là, mais par-dessus le marché, il les vendait aux colporteurs en secret et il a piraté Mirabeau. C'est-à-dire il a vendu une édition, une contrefaçon d'un de ses écrits de Mirabeau dans le dos de Mirabeau. La police, dans son interrogatoire à la Bastille, a découvert tout cela. Donc j'y vois vraiment un cas typique de ces Rousseau du ruisseau. Quand la Révolution a éclaté, il corrigeait des épreuves dans une imprimerie et il vendait de la pornographie aux colporteurs. Voilà une autre sorte de carrière assez typique, à mon avis. Eh bien, que devient un pauvre diable d'écrivain une fois qu'éclate la Révolution? La plupart sont devenus des journalistes, mais dans le cas de Manuel, qui connaissait bien les colporteurs l'ont aidé à devenir représentant de son district. Il est allé à la Commune où il avait un emploi dans la librairie, surveillance de la librairie, où il a découvert les archives de la Bastille.
N'allons pas trop vite parce que nous allons arriver à 89 et à la suite, si vous voulez bien, Robert Danton. Je note à propos de Manuel cette formule de Rivarol, qui, du côté de la droite, a été un des esprits les plus aigus et un des pamphlétaires les plus efficaces, qui dit de Manuel, « Manuel, muse aimable et facile, qui se prêterait à tout, mais qui est mieux allé à l'immortalité par les petits sentiers du madrigal et de l'épigramme. » Mépris écrasant.
Oui, ça vient du petit dictionnaire de nos grands hommes.
Alors, il faut que nous en venions maintenant, en effet, à ces sortes de volumes qui inventorient tous ces personnages et qui vont contribuer, qui vous donnent l'occasion, en tout cas rétrospectivement, de les constituer comme un corps social qui attire toute votre attention, Robert Danton.
Exactement. Il nomme 672 poètes. Des poètes obscurs, n'est-ce pas? Il dit, non, je ne vais pas parler des grands hommes, des grands écrivains, je vais parler des tout petits, dont Manuel, avec bien des autres. Et je trouve que le petit dictionnaire des grands hommes est fascinant parce qu'on y trouve aussi des gens qui vont devenir des révolutionnaires. Il y a pas mal de futurs jacobins dont se moque.
Qu'on saisit avant.
Oui, ça a été publié en 1788.
Il y a aussi cette France littéraire, cette publication à laquelle vous faites un sort, Robert Danton.
Oui, alors là, je ne parle pas uniquement des carrières, il faut quand même faire une sorte d'étude générale de tous les écrivains.
C'est à cela que
pas uniquement des pauvres diables qui me fascinent, mais quelle était la population? C'est fascinant puisqu'on ne savait pas combien d'écrivains existaient à la veille de la Révolution. Il faut définir ce que c'est qu'un écrivain. D'après l'auteur de La France littéraire, un écrivain, c'est quelqu'un qui a publié au moins un livre. C'est un peu simple, je veux bien, mais c'est utile.
Donc des milliers de noms.
Exactement. Donc j'ai suivi l'évolution de cet ouvrage qui commence en 1752 et qui s'améliore jusqu'à devenir une sorte de bottin des auteurs, le who's who de tous les auteurs, Voltaire y compris. D'abord, Voltaire ne voulait pas paraître parmi tous ces gens-là.
Par orgueil.
Exactement. Mais on a fait l'article Voltaire, malgré lui, où on a nommé certains ouvrages qu'il ne voulait pas avouer. Donc, il a fait son propre article dans l'édition de 1753, c'est 54.
C'est plus sûr d'un point de vue narcissique.
Exactement. Et il a dit, c'est un ouvrage de bibliothèque, c'est-à-dire que c'était sérieux. Donc j'ai suivi l'évolution de la France littéraire, et là je trouve que vers 1750, il y avait 1200 écrivains, et à la veille de la Révolution, 1784, c'est la dernière édition, il y en avait presque 3000. C'est-à-dire que la population littéraire a plus que doublé, je dirais même a triplé.
Robert Danton, je vous garde un petit peu encore avant 89,
oui,
parce que vous évoquez aussi la géographie,
oui,
littéraire de ce monde, qui est intéressant, oui, avec le surgissement d'une ligne qui n'est pas la ligne Maginot, mais la ligne Maggiolo.
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
Eh bien, il y a, dans l'histoire sociale de la France, on parle souvent de la ligne Maggiolo, parce que Maggiolo avait lancé une enquête où on a cherché à savoir quel était l'alphabétisme au XVIIIe siècle, XIXe siècle. Et on constate qu'il existe une sorte de ligne qui part de Saint-Malo et qui va jusqu'à Genève et qui démarque une France très littéraire, alphabétisée, au nord et nord-est de la France, tandis que le sud et le sud-ouest est beaucoup moins alphabétisé. Il y a toutes sortes d'études. Moi-même, j'ai fait une étude sur la diffusion de l'encyclopédie et je constate qu'il y avait comme deux Frances.
Et d'ailleurs, Fabre d'Églantine disait « Hors de Paris, il n'est pas de salut ». Je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais...
Ni moi non plus, hein, mais quand même, Paris avalait ce talent des provinces.
En gros, de point de vue social, à la veille de la Révolution, un tiers des auteurs, nous dites-vous, faisaient partie du clergé ou de la noblesse.
Oui, exactement. À peu près 20% de prêtres et 16% de nobles, c'est-à-dire le monde privilégié contribuait beaucoup à la France littéraire. Et aussi, parmi dans le tiers-état, beaucoup de médecins, beaucoup d'avocats, bien sûr. Et finalement, ce que j'appelle les métiers intellectuels, c'était des secrétaires, des précepteurs, des traducteurs, des scribes, toutes sortes de gens qui avaient de petits emplois plus ou moins littéraires.
Il y a un personnage, néanmoins, il y en a peu, qui émerge de la classe ouvrière, qui donne peu d'écrivains dans votre
Très
analyse.
Peu.
Je vais donner la parole à l'un de ces rares ouvriers qui a émergé, le fameux Nicolas Récif de la Bretonne, qui parle de la sorte dans ses mémoires. C'est un extrait de l'émission « Mémoires du XVIIIe siècle » de Catherine Bourdet et Henri Soubéran sur France Culture, le 2 novembre 1970. Écoutons Récif de la Bretonne, il mérite de l'être.
Je commençais l'impression du paysan perverti immédiatement après celle du fin matois au mois de mai ou de juin 1775. Le 1er novembre 1775, je distribuais les exemplaires du paysan aux libraires qui devaient les vendre sans me douter du succès d'une production que le libraire de Lalin avait dédaignée. Cet ouvrage va mettre du changement dans mon sort. Jusqu'à sa publication, j'étais demeuré inconnu du public. Le paysan me fit une réputation d'auteur. Dans la troisième semaine de la vente, je rencontrai le libraire Leget, célèbre par Beaumarchais, dans la rue de la Vieille Boucherie.
Je crois que votre paysan va prendre. Cela se remue fort.
Vous voulez dire que la vente marche bien ?
Prodigieusement. Esprit, le libraire du Palais Royal me l'a confirmé. Il pense que d'ici trois semaines, l'édition sera épuisée. Vous devriez songer à réimprimer.
Je vous abandonne cette seconde édition si vous la faites à vos frais.
Cela m'est impossible actuellement, mais Esprit ne demande pas mieux. Quant à moi, je vous achète 400 exemplaires à 3 livres, tout de suite.
Me paierez-vous comptant ?
Non, en billets.
Eh bien, soit. Je ne suis pas en mesure de discuter.
Le bon Leget, que Beaumarchais a représenté comme si naïf, l'était toujours moins que moi. Il me payait en billets tandis qu'il recevait de l'argent comptant et qu'il vendait les exemplaires 6 à 7 livres.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
On entre là, Robert Danton, dans le fonctionnement quotidien de la librairie, de la manière dont les écrivains eux-mêmes se faisaient parfois libraires et entretenaient avec ceux-ci des rapports très compliqués.
C'est un bel exemple. D'ailleurs, Rétif de la Bretonne a commencé comme ouvrier, mais dans une imprimerie, compositeur. Donc, il s'y connaissait.
Ça a toujours été une noblesse du monde ouvrier, d'ailleurs, que le typographe à travers les siècles.
Exactement. Mais il était compositeur, il est devenu écrivain et le paysan perverti était parmi ses premiers succès, mais il n'a jamais eu beaucoup d'argent. Il était assez misérable, très ami avec Louis-Sébastien Mercier. Il représente vraiment ce monde-là. Et vous savez, il n'y avait pas de droit d'auteur. Donc, l'auteur donner son manuscrit au libraire qui lui versait parfois 100 louis, mais parfois lui payait en exemplaires et pas en argent. C'était pas des salaires, on était payé comme ça d'après le travail.
Les libraires, c'est évidemment l'imprimeur, très largement à l'époque. Souvent, les écrivains sont payés par les libraires par leurs propres ouvrages qu'ils revendent. Tout ça est assez compliqué.
Oui, très compliqué, effectivement. Ils recevaient peut-être 50 exemplaires de leurs livres. Et parfois, on leur disait, voici 50 exemplaires, mais vous ne pouvez pas les vendre à la rive gauche. Il faut les vendre ailleurs, etc. Donc, ils étaient vraiment exploités. c'était comme ça, sans droit d'auteur. Il faut dire aussi que la vie n'était pas facile pour les maisons d'édition. Il fallait être membre de la communauté des libraires et des imprimeurs de Paris.
C'était le temps des corporations.
Exactement. Donc, ils avaient le monopole, mais ils avaient des concurrents qui étaient des pirates. Et dans un autre livre, j'ai beaucoup étudié les contrefaçons, la piraterie, et je suis convaincu que plus que la moitié des livres sur le marché de livres au XVIIIe siècle étaient des contrefaçons. Donc la vie n'était pas facile pour les libraires, les éditeurs non plus.
On n'a pas encore inventé le droit d'auteur qui va être vraiment établi définitivement, même à hauteur internationale, dans la deuxième partie du XIXe siècle.
Oui, oui, oui. On a bel et bien inventé le droit d'auteur pendant la Révolution 1793, si je me souviens bien, 14. Mais en même temps, la littérature noble n'a pas réussi pendant la Révolution puisque tout le monde lisait les journaux. Bernardin de Saint-Pierre était à peu près le seul écrivain qui a fait fortune pendant la Révolution. Les autres, non.
Nous avons déjà cité Rivarol, qui est un des esprits les plus fins et les plus cruels de la période. Il publie peu de temps avant la Révolution, en 1788, un petit almanach qui mérite qu'on s'y attarde un instant.
Oui, c'est drôle, c'est méchant, ce petit almanach. Il y nomme 672 poètes, mais des poètes obscurs, puisqu'il dit « je ne vais pas parler des grands auteurs, je vais parler des tout petits auteurs et les célébrer comme autant de génies ».
Avec cette profession de foi très claire et très ironique, il écrit « n'est-ce pas une chose bien étrange et bien humiliante pour l'espèce humaine ?» Que cette manie des historiens, je pense que c'est nous qui l'attaquent, Robert Danton, de ne citer qu'une douzaine tout au plus de grands écrivains dans les siècles les plus brillants. Si j'écrivais l'histoire naturelle, croyez-vous que je ne citerais pas seulement les éléphants, les rhinocéros et les baleines? Non, messieurs, je descendrais avec plaisir de ces colosses imposants aux plus petits animalcules. Et vous sentiriez s'accroître et s'attendrir votre admiration pour la nature quand j'arriverai avec vous à cette foule innombrable de familles, de tribus, de nations, de républiques et d'empires cachées sous un brin d'herbe. C'est magnifique.
C'est magnifique, c'est méchant, c'est drôle.
C'est votre épigraphe de votre tâche, en réalité, d'aller contre cette histoire qui serait uniquement consacrée à l'influence des très grands hommes, des encyclopédistes, etc.
Oui, oui. Et au début, je croyais que peut-être qu'il inventait, mais j'ai vérifié ses citations et c'est exact. Il a bel et bien trouvé 672 écrivains, tout petits écrivains, et parmi ces écrivains, bien des gens qui vont devenir des Jacobins, qui seront membres du comité de salut public. Dans un autre écrit, il parle de Robespierre, il le fait exprès, n'est-ce pas? Et il dit, il a fait un madrigal qui était le désespoir de Voltaire pendant sa vieillesse. C'est méchant, mais c'est de dire que tous ces petits écrivains prétentieux étaient des médiocrités qui allaient devenir des hommes importants après la Révolution.
Il n'était pas vraiment un prophète, mais enfin, il n'y a rien de prophétique dans le fait que son catalogue des littérateurs des bas-fonds accueillait de futurs jacobins. Mais de fait, ils sont devenus des jacobins. Leur nom se détachait des autres. On les retrouve dans cet almanach sous la forme de l'ironie. Les Fabre d'Églantine, Collot d'Herbois, Desmoulins, Fréron, Manuel Mercier, Gorsas, etc. Il y a un tête-à-tête qui est tout à fait éclairant. C'est celui qui s'installe entre Rivarol d'un côté et Fabre d'Églantine de l'autre.
Oui, juste à la veille de la Révolution, il y avait ce petit almanach, mais aussi une pièce de Fabre d'Églantine, Les gens de lettres. Et on peut le lire d'une façon sociologique, puisqu'il décrit un génie qui arrive de province et qui essaie de faire figure à Paris, mais tout tourne contre lui, il n'est pas admis dans les salons, il est exclu des petites revues littéraires, Il est complètement isolé, il écrit des chefs-d'œuvre dans sa mansarde et il ne réussit pas jusqu'à un autre provincial arrive à Paris, reconnaît son génie et l'emporte. Ce n'était pas un succès au théâtre italien, mais lu aujourd'hui, cela démontre très bien la condition de ces pauvres diables. Et ce qui m'a beaucoup fasciné, c'est après l'explosion révolutionnaire, Fabre d'Églantine a fait une seconde pièce qui, celle-là, avait du succès. C'était le Philinte de Molière.
Et il prolonge le film, le Misanthrope.
Oui, mais exactement.
En renversant finalement le rôle, le dialogue entre Philinte et Alceste.
Oui, donc Alceste devient le héros, Philinte c'est le méchant. C'était un peu, si vous voulez, la lecture du Misanthrope faite par Rousseau dans sa lettre à D'Alembert. C'est que Fabre apparut sur la scène lui-même, il tire de sa poche la lettre à D'Alembert, il lit un morceau et il dit « c'est Rousseau qui me protège ». C'est dans une pièce de théâtre parfaitement rousseauiste qui a du succès à cette époque-là. Je pense qu'une des tâches de la Révolution, sans vous choquer, c'est de réécrire Molière. C'était important de repenser l'histoire de la littérature pour arriver à une position rousseauiste. Donc, Fabre réécrit Molière. Il y a un compte-rendu de Desmoulins de cette pièce. Et on voit Desmoulins qui regarde Fabre d'Églantine, qui regarde Molière, qui regarde l'hypocrisie de l'époque. Et ce jeu de regard me fascine et je trouve que pour les Français, à cette époque-là, il fallait repenser l'histoire littéraire et non seulement créer une constitution.
Donc Fabre d'Églantine n'est pas seulement celui qui a inventé, c'est immortel, le calendrier révolutionnaire, c'est aussi quelqu'un qui incarne cette opposition entre l'hostilité virulente d'un Rivarol et l'adhésion d'un certain nombre de ces auteurs qui vous sont chers, Robert Danton, aux idées nouvelles. Il faut donner la parole à Rivarol, qui précisément dénonce dans le texte que vous allez entendre cette évolution d'un certain nombre d'écrivains qu'il juge médiocres et qui tout à coup sont portés par le souffle de la Révolution. C'est un texte qui est lu dans le Collège des Ondes le 21 août 1956, Rivarol, 1790.
C'est dans ce parti populaire de l'Assemblée nationale que j'ai puisé mes plus brillants caractères. Les habiles législateurs qui le composent se sont tous trouvés placés pour seconder la Révolution. Les injustes disgrâces de la cour ont donné aux uns l'énergie de la vengeance, la ruine malheureuse de leur fortune a donné aux autres le génie de l'agiotage. Voulant réformer la France, ils ont senti la nécessité de brouiller l'État. Le peuple était encore retenu par quelques préjugés monarchiques et par un aveugle amour de son roi. Ses grands publicistes lui ont ouvert les yeux. Ils lui ont fait découvrir son tyran dans son maître. Ils lui ont prouvé que les nobles n'étaient que des usurpateurs héréditaires puisqu'ils osaient jouir des possessions de leur père. Enfin, par leur sublime décret, ils ont dépouillé le faible et encouragé le fort. C'est aussi dans cet auguste aréopage que nous avons vu éclore des génies qui, sans elles, seraient encore l'ennuyeux rebut de la société. Que de miracles n'opèrent point le patriotisme. Les plus lourds esprits de la littérature se sont bien montrés les plus profonds de l'Assemblée. Les plus illustres ignorants de la jeunesse française n'ont paru ni embarrassés ni déplacés dans la tribune parisienne. En un mot, les ennemis de la langue sont devenus tout à coup les défenseurs de la nation. Qu'on me cite un écrivain, un philosophe, un académicien même qui se soit distingué dans ces derniers temps de troubles et de prospérité. Ce sont donc les plus simples mortels qui font aujourd'hui la gloire du nom français. La médiocrité fait encore ressortir l'éclat de leurs actions et ce n'est qu'opposés à eux-mêmes qu'ils peuvent étonner la postérité. Il faut donc peindre ces fiers républicains avec la peinture qu'ils méritent, et il faut même leur sauver l'honneur de rentrer dans leur première obscurité.
L'honneur de rentrer dans la première obscurité. Il y a beaucoup de talent chez Rivarol.
Il avait beaucoup de talent. C'était un contre-révolutionnaire convaincu. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais on y apprend beaucoup de choses.
Le sort de ces personnages auxquels Robert Danton vous rend des vies si efficacement a été multiple et divers dans cette période. Mais un seul de vos quatre héros favoris que nous avons évoqué tout à l'heure est guillotiné, proportion raisonnable.
Oui, je ne veux pas simplifier, hein. C'était très complexe ce monde-là, mais le cas de Manuel me paraît très important. J'ai dit, n'est-ce pas, que c'était un misérable qui faisait de la pornographie, des contrefaçons, et même il était même espion de la police avant la Révolution. Après, étant nommé inspecteur de la librairie pour la Commune, mais sans salaire, il a trouvé les archives de la Bastille, il les a exploitées pour gagner de l'argent. Et c'était autant de best-sellers. Vous avez la police de Paris dévoilée, la Bastille dévoilée, la police de Paris dévoilée, la chasteté du clergé dévoilée.
On retrouve l'anticléricalisme, le refus de la censure et la dénonciation de l'arbitraire royal.
Tout cela, je veux bien, mais en même temps, une sorte de littérature de scandale. Et les lecteurs étaient fascinés par ces vies, et surtout par les prêtres qui sont allés dans des bordels, etc. Tout est décrit dans ces écrits de Manuel. Il a fait, je ne dis pas fortune, mais il a gagné beaucoup d'argent, et il pouvait se présenter pour être élu à la législative, et il est devenu même procureur de la Commune de Paris lors des massacres de septembre.
Un peu de responsabilité probablement dans les massacres, vous me le dites.
De responsabilité, je ne sais pas, mais il n'a pas pu les empêcher. Il a sauvé Madame de Staël à cette époque-là. Et il estimait qu'elle était directrice d'un salon. Lui était un pauvre diable qui n'entrait pas dans les salons. Et elle était consciente de cela. Elle l'a contacté c'est lui qui lui a sauvé la vie, en fait.
Mais elle ne lui sauvera pas la vie en retour puisqu'il est guillotiné. Il a été montagnard, extrémiste et ensuite... Au pic de la terreur, il passe sous la guillotine.
Oui, d'abord, il était très lié avec Danton, surtout Danton, le club des Cordeliers, et Robespierre également. Il a fait plusieurs discours au club des Jacobins. Mais finalement, à la Convention, il s'est rangé du côté des Girondins. Il ne pouvait pas voter la mort du roi. Et à cause de cela, il était tout à fait suspect. Il a démissionné de la Convention, il est rentré en province, on l'a trouvé, et on estimait que c'était un Girondin qu'il fallait guillotiner.
Décidément, c'est ce que j'aime, ce qu'on aime, et que les lecteurs apprécieront dans votre beau livre, Robert Danton, La condition d'écrivain, c'est cette rencontre entre la description des cas particuliers et d'autre part, une réflexion générale sur une profonde mutation culturelle qui a été marquée par la Révolution. La période qui a suivi 1789, tout change. Et pas seulement par le fait que des gens encore obscurs vont tout à coup surgir au devant de la scène et prendre un pouvoir inattendu et inédit. Tout bouge.
Tout bouge puisque, finalement, il y avait une liberté de la presse. En réalité, après la chute de la Bastille, le Patriote français de Brissot était parmi les tout premiers journaux créés, et on a assisté à une création de presque 200 journaux à Paris pendant cette année-là. Donc c'était une nouvelle carrière pour bien des gens. Et ces gens-là sont devenus des journalistes, des hommes politiques, comme Brissot, comme Gorzas, dont on a parlé, comme Cara, comme Desmoulins. Même Robespierre, pendant une certaine période, s'est fait journaliste. Donc, une nouvelle carrière très importante, mais sous des conditions absolument différentes. Donc, plus de censure, début du droit d'auteur.
Plus de corporation.
Plus de corporation, et la piraterie a plus ou moins disparu, puisque les conditions étaient différentes. Une sorte de révolution économique et sociale à l'intérieur du monde des écrivains.
La révolution a vraiment transformé les conditions de la vie littéraire française. Songez qu'elle a mis un terme à la censure, qu'elle a démantelé la direction de la librairie, qu'elle a détruit la communauté des libraires de Paris et également les chambres syndicales des libraires de province, qu'elle a mis en œuvre une loi sur la propriété intellectuelle, aboli l'Académie française, c'est affreux, révoqué les privilèges des théâtres officiels, supprimé le système de parrainage et de protection qui reposait sur la cour royale, nous l'avons assez vu, et poussé la plupart des personnalités qui animaient les salons à s'exiler ou à se cacher.
La révolution a transformé le monde littéraire et on entre dans la modernité.
Cette histoire que vous racontez, Robert Danton, nous l'avons faite de façon assez franco-française. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, tout ce XVIIIe siècle voit une influence culturelle de notre pays considérable tout autour de l'Europe. La plupart des cours parlent encore français, etc.
Oui.
Donc comment se répercute dans cette Europe-là ces évolutions que vous venez de décrire, ce profond changement que marque 1789 et la suite quant à la condition des écrivains et à leur rayonnement spécifique?
Oui. D'abord, il faut souligner que l'Europe lisait le français. Je veux dire l'élite de l'Europe, bien sûr, mais tout le monde lisait le français. C'était une sorte, ce qu'on appelle aujourd'hui « soft power ».
Comment le disait-on en français à l'époque?
Mais je dirais que c'est la France qui a inventé l'intellectuel. Je sais que le mot « intellectuel » vient de l'affaire Dreyfus. Mais j'y vois une sorte de lignée qui va de Voltaire à Hugo, à Zola, à Foucault. Et ça a marqué tout le monde. De l'autre côté de l'Atlantique, on regardait la France pour savoir ce qu'il fallait penser, pour être inspiré. La force de la France était dans sa littérature, bien sûr. À l'échelle européenne, il y avait d'autres sources importantes. Mais la France vraiment a laissé sa marque sur la culture mondiale, je dirais. Et nous autres, aux États-Unis, on a dû suivre les maîtres à penser français. Cela nous importait beaucoup. Donc, dans mon livre, j'essaie de faire une sorte d'histoire sociale des écrivains pour aboutir à un phénomène plus large qui est l'influence culturelle.
Avec le recul, Robert Danton, en somme, est-ce que cette profonde révolution littéraire, ce n'est pas seulement la révolution au sens de révolution de 89, c'est ce changement profond a abouti à une situation améliorée pour la République des lettres, pour ces centaines d'écrivains qui vous sont chers, ou est-ce que c'est la continuité, au contraire, qui vous frappe?
À long terme, cela, à mon avis, a favorisé la littérature, puisque avec le droit d'auteur, manque de censure, et surtout l'alphabétisation, et une autre sorte de librairie où le livre figure et prospère, c'est le monde Zola, si vous voulez. Donc, la révolution a préparé ce monde-là. Mais il fallait avoir aussi... Il y a tout un aspect technique. Le papier qui était fabriqué à pâte de bois, c'était formidable, mais ça n'a commencé que vers 1840.
Pour le malheur de la Bibliothèque nationale, parce que les papiers sont jaunis.
Exactement.
C'est une parenthèse.
Bon, oui, je veux
Il y a aussi l'école, il y a aussi le fait de l'élargissement de l'alphabétisation qui élargit le public et les choses changent.
Oui, oui, oui.
Notamment parce que ça permet, quand on se vend bien des droits d'auteur, que la nouvelle législation définit avec plus de précision.
Oui, et aussi les presses animées par la vapeur, presse à vapeur, ça a commencé en 1808 à Londres. Donc il y a tout un aspect technique de ce renouvellement du monde littéraire, mais surtout l'alphabétisation, le culte, le sacre de l'écrivain. Oui, la formule de Benichou. Donc le sacre de l'écrivain, d'après Benichou, est arrivé à la fin du XVIIIe siècle, mais c'est tout au long du XIXe siècle où l'écrivain a continué à prospérer et à marquer l'histoire.
En vive différence avec le monde que vous venez pour notre satisfaction de nous restituer, Robert Danton, celui du XVIIIe siècle. Merci beaucoup, Robert Danton, d'avoir été à ce micro. Je vous en suis reconnaissant, comme le seront nos auditrices et nos auditeurs. Votre livre sur lequel nous avons fondé notre conversation et qui vient de sortir chez Gallimard dans la collection des essais, NRF Essais, s'intitule « La condition d'écrivain » avec comme sous-titre « Culture et révolution » dans la France du XVIIIe siècle. Mais c'est au fond l'achèvement, nous dites-vous, d'un cycle beaucoup plus large que vous avez marqué par des œuvres très reconnues. Par exemple, je ne peux pas les citer toutes, elles seront largement en ligne sur notre site. Mais je voudrais parler de l'aventure de l'encyclopédie, ce livre qui est publié par vous dès 1982 et qui a été repris en point. L'aventure de l'encyclopédie, 1775-1800, un best-seller. Ça, c'est un américanisme, enfin, je vous le pardonne. Vous n'êtes pas le seul à l'avoir employé. Un best-seller au siècle des Lumières, chez Perrin. Et nous avions parlé à ce micro même d'un livre où vous évoquiez l'influence des éditeurs extérieurs, notamment en Suisse, du côté de Neuchâtel, sur la vie culturelle et la vie de la librairie en France. Un tour de France littéraire. Le monde du livre à la veille de la Révolution, paru chez Gallimard en 2018. Vous suiviez un personnage très intéressant, si intéressant que vous me dites qu'il a été repris tout récemment dans une bande dessinée.
Oui.
Ça vous a surpris ?
Tout à fait. C'était une sorte de garçon de boutique qui travaillait pour la société typographique de Neuchâtel, qui s'appelait Favarge. Il est monté à cheval et il a traversé, je ne dis pas toute la France, mais tout le midi de la France et le centre, en vendant des livres et en espionnant un peu les librairies pour savoir ce qui marchait, ce qui ne se vendait pas, etc. Et j'ai son cahier de voyage, sa correspondance. C'est passionnant, puisqu'on voit la littérature au niveau de la rue, très terre à terre. Et curieusement, on a fait une bande dessinée.
Ça a l'air de vous faire grand plaisir.
Oui. Vous savez, il y avait beaucoup de petits gens de la littérature et ce Fabergé, comme voyageur, il est un représentant de ce petit monde qui me fascine.
Et puis enfin, j'ai en mémoire notre conversation en direct au rendez-vous de l'histoire de Blois l'année dernière. C'était à propos d'un livre qui s'appelait « L'humeur révolutionnaire, Paris 1748-1789 ». Et on y retrouve déjà cette ambiance, le titre l'indique, que vous avez pour nous ce matin restitué. Je vous en sais gré, Robert Danton. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, réalisée par Vincent Abouchard, avec Yann Frécy et Maël Larfassor à la prise de son, avec Célian Guillemard à la discothèque et Emmanuel Lucioni pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel.